Vous vous en souvenez sans doute si vous avez écouté les derniers épisodes du podcast, j'ai le grand plaisir actuellement d'être soutenu par Domestika. Domestika, c'est une plateforme de cours en ligne sur laquelle on retrouve notamment des cours d'aquarelle, de peinture acrylique, de gouache, mais aussi de création digitale sur Photoshop ou Procreate. Il y a aussi toute une partie autour des arts du fil avec des cours de broderie, de tissage, de crochet, de punch needle ou de tapisserie avec des matériaux recyclés. Il y a même des cours de menuiserie. Sur Domestika, on va plus loin qu'avec des tutos ou des masterclass car c'est un cours très complet dans lequel on va s'approprier la technique pour réaliser un projet final. On peut également échanger de manière privilégiée avec le formateur ou avec l'artiste. Domestika propose également un abonnement qui s'appelle Domestika Plus. Ça vous donne accès à un cours par mois à un tarif avantageux avec des réductions et des avantages exclusifs sur d'autres cours. L'idée est d'avoir accès à des cours et des avantages régulièrement tout au long de l'année. C'est donc parfait pour se mettre dans une vraie dynamique d'apprentissage continu ou quand vous n'arrivez pas à choisir. De mon côté, j'avais choisi de tester un cours autour du papier découpé. Alors, j'ai pas encore terminé, mais j'ai trouvé ça jusqu'à présent bien organisé. Tout est découpé en unités, avec des vidéos courtes à chaque fois, et à la fin, des activités à compléter, et des ressources web pour aller plus loin. J'ai même des feuilles d'entraînement au format PDF, et on peut regarder ce qu'ont réalisé les personnes qui ont suivi le cours. C'est donc très complet, et si vous souhaitez vous lancer, Domestika vous offre une réduction de 10% sur votre prochain cours, avec le code FEMIN10-2022. Vous le retrouverez dans les notes de l'épisode ou sur mon site podcastfemin.fr. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fémin, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat, j'adore créer et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles, des pinceaux. Découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Aujourd'hui, on retrouve Laure, que vous avez peut-être déjà entendu dans l'épisode 71. Laure a deux activités. Elle accompagne des marques créatives dans leur stratégie de communication, sous la marque Bureau d'Influence, l'agence qu'elle a co-créée, et elle est également créatrice de contenu DIY avec son blog ilovedoityourself.com. Dans l'épisode 71, on avait beaucoup parlé de marketing d'influence, avec notamment la manière d'aborder des marques avec lesquelles on veut travailler quand on est créatrice. Pour ce nouveau rendez-vous, Laure répond aux questions que vous lui avez posées à la suite de notre premier échange. On a découpé en 3 épisodes pour que vous puissiez les écouter facilement. Pour la première partie, Laure répond aux questions autour du choix du statut juridique. Deuxième question autour du réseau et de la façon dont on peut s'entourer en tant que solopreneur. Et troisième question autour de la visibilité et de la mise en avant de son travail. Dans le mini-épisode suivant, on traite de la question de l'argent. Comment j'assure mes arrières d'un point de vue financier? Laure nous donne ensuite son point de vue sur les 3 erreurs à ne pas commettre quand on se lance. Et elle nous donne des conseils pour gérer la peur de se lancer. Et enfin, dernière partie dans laquelle on répond aux questions suivantes. Comment dire non à des projets? À quoi ressemble le quotidien d'une entreprise créative? Et est-ce que j'ai créé mon activité seule ou avec quelqu'un? C'est hyper intéressant, non? Alors, c'est parti. Bonne écoute.
Bonjour Laure, je suis ravie de te retrouver pour quelques conseils sur l'entrepreneur créatif.
Bienvenue. Bonjour Mélanie.
On démarre avec quelques questions pratiques. Comment je choisis mon statut juridique? C'est souvent une question qui revient. Ça fait un peu peur, ce côté un peu juridique, fiscal, etc. Comment je fais pour me lancer sur le sujet?
Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Je ne suis pas comptable, je n'ai pas de compétences particulières. Mais pour moi, il y a quand même deux options assez tranchées. Il y a l'option de commencer en tant qu'auto-entrepreneur. Et là, c'est assez flexible. On peut être auto-entrepreneur et cumuler ce statut avec un emploi de salarié, par exemple. On a une comptabilité qui est quand même très allégée. On a des plafonds qui sont assez élevés pour pouvoir lancer son activité, se roder. On a moins d'obligations que quand on est une société. Et la deuxième option, c'est de démarrer tout de suite en tant que société. Et là, il y a différents formats de société. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas experte. Mais dans ces cas-là, à partir du moment où on est en société, on doit avoir un expert comptable, ce qui implique des frais. On a différentes charges qui interviennent. Donc, c'est sûr que le statut de société, peut-être qu'on peut l'appréhender quand on a voilà, déjà des clients, un bureau en location où là, on est sûr qu'on va avoir un loyer, des charges vraiment récurrentes qui tombent tous les mois. Et dans ces cas-là, c'est sûr que c'est une bonne option d'avoir ce statut. Moi, ce que je trouve super avec le statut d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise.
Oui, parce que c'est la même chose, hein. Micro-entreprise, auto-entreprise.
Fait, ça nous permet pendant quelques mois, quelques années, de se roder, de démarrer, de créer son business, de s'exercer, on va dire. Et après, c'est un statut qui est très facile à gérer. Et on peut passer d'un statut à l'autre très facilement. On peut clôturer sa micro-entreprise ou son statut d'entrepreneur très facilement. Donc, je pense que c'est une bonne option de démarrage, en tout cas quand on n'a pas de charges fixes, qu'on travaille à la maison et que…
Seul, c'est qu'on n'a pas des gros, des grosses prévisions de dépenses aussi, de charges. Parce qu'en micro-entreprise, on doit assumer toutes les charges et on déclare son chiffre d'affaires.
Exactement. Okay. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vraiment une question à se poser. Mais on peut démarrer comme ça et passer à un autre statut ensuite. Hein. L'un n'est pas, c'est pas incompatible.
Ouais, ok. Bon, ben, génial. Donc, si j'ai une activité finalement où j'ai peu de charges en prévision, une activité que je peux gérer un maximum toute seule, éventuellement depuis la maison, sans faire appel à un salarié ou à trop de prestataires, plutôt micro-entreprise.
C'est ça.
Et puis, si je sais que je vais avoir besoin, par exemple, de financement particulier, si j'ai besoin tout de suite de travailler en équipe avec des salariés ou avec des prestataires derrière, c'est plutôt un statut de société que je vais avoir.
Tout à fait.
Bon, super. Allez, eh ben, écoute, impeccable pour cette première question. On continue avec une autre question qui est plus liée un petit peu au réseau. Comment je peux faire pour bien m'entourer ?
Alors, je pense que quand on est indépendant, quand on a son entreprise, souvent on est amené à travailler tout seul. Bon, après on peut avoir des salariés, mais au début, souvent on est seul. Et c'est très important d'être ouvert et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Premièrement, pour se créer un réseau, parce que on n'est jamais à l'abri d'avoir besoin de compétences qu'on n'a pas nous personnellement. C'est-à-dire qu'on peut être amené à nous proposer un projet. Et finalement, dans ce projet, on a deux compétences sur les trois, mais il nous en manque une. Et quand on a un réseau qui est fourni, eh ben, on peut tout de suite appeler la bonne personne qui va être compétente et nous permettre de signer ce projet pour aller de l'avant. Aussi, parce que ça nous permet d'échanger sur divers sujets, des difficultés, des interrogations. Souvent, c'est vrai qu'on parle beaucoup à son mari, à sa famille, mais bon, ils ne sont pas toujours en mesure de nous apporter la réponse. Alors que dans un réseau, on peut être amené à trouver des gens qui sont passés par cette situation. Moi, je me suis beaucoup tournée vers les réseaux d'entrepreneurs. J'en ai d'ailleurs créé un parce que je sentais vraiment qu'il y avait un besoin et que c'était très, très stimulant. Et je pense qu'une des autres choses, c'est qu'il ne faut pas hésiter à être curieux et à aller vers les gens, à être vraiment proactif dans ses démarches. Par exemple, dans l'univers du fait main, ne pas hésiter à aller voir, alors pas son concurrent, mais des activités qui peuvent être complémentaires aux nôtres, créer le contact, créer du lien, commencer à discuter. Et souvent, on se rend compte que ça peut aboutir à des belles synergies, en fait.
Oui, et donc c'est pareil, j'ai pas besoin d'attendre d'avoir le projet sur lequel j'ai besoin de quelqu'un pour commencer à m'entourer. Parce que ça veut dire que si, admettons, j'ai besoin d'un photographe, enfin, je sais que potentiellement, j'aurais besoin d'un photographe ou d'un quelqu'un qui fait de la prise de vue vidéo, etc. Je peux commencer finalement à prendre des contacts avant d'avoir le besoin. Ça me permet aussi, bah, comme tu dis, simplement de rencontrer des gens et de parler un petit peu de soi et de son activité. Et puis, d'établir des contacts pour le jour où j'aurai besoin.
Oui, et puis ça marche dans un sens, mais ça marche dans l'autre. Peut-être que vous allez vous tourner vers… vous avez besoin un moment, d'une captation vidéo. Et effectivement, la personne en face, elle aura besoin d'autre chose. Donc… c'est gagnant-gagnant, je pense. Et effectivement, quand on a besoin d'une compétence, on est souvent dans le rush. Comme tu l'as très bien dit, ne pas attendre d'être dans le rush pour avoir cette personne dans notre carnet d'adresses.
c'est aussi un risque de se précipiter et de choisir finalement la mauvaise personne parce qu'on n'aura pas assez anticipé. Et voilà. Et donc, même si on n'a pas le besoin tout de suite, ça peut sembler aussi une perte de temps à l'instant T. On court après un peu le temps aussi. Mais c'est forcément une bonne idée quand même, lors d'un temps mort, de commencer à prendre des contacts. Mmh.
Donc, ne pas hésiter à aller à tous les événements qui sont organisés. Des fois, en fait, on n'est pas au courant, mais les villes sont très, très riches de ce genre de réseau. Les villes, les régions, il y a beaucoup de choses qui sont organisées et il faut être curieux et vraiment voilà, aller chercher, ne pas hésiter à parler toujours de son activité parce qu'on peut toujours rencontrer quelqu'un à une soirée qui connaît quelqu'un qui pourrait être intéressé par notre presta ou qui pourrait voilà, nous aider avec une compétence particulière. Donc, je pense que le maître mot, c'est être proactif.
Mmh. Ça marche, ok. Est-ce que, comme tu disais, les réseaux aussi, ça peut être simplement des groupes Facebook ou alors tu faisais référence à ce qui peut être organisé dans les villes. Il y a les CCI aussi qui organisent beaucoup de choses.
Complètement.
Et les chambres des métiers, c'est sans doute pareil. Est-ce qu'il peut être encore plus adapté aux activités de Fémin?
Souvent, il y a des petits déjeuners business qui sont organisés. Donc, des fois, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je vais me retrouver qu'avec des businessman, businesswoman. Et en fait, non, il y a beaucoup de créateurs d'entreprises comme nous et c'est très intéressant. Et aussi, ça nous pousse à aller chercher des contacts en dehors de notre champ d'action. Parce que c'est vrai qu'en allant chercher des contacts dans notre champ d'action, on va potentiellement tomber sur des concurrents, des gens qui ont moins envie de dévoiler voilà, des petits secrets de fabrication, des petites choses. Alors que quelqu'un qui est complètement dans un secteur XY qui n'a rien à voir avec nous, le domaine culinaire par exemple, il peut être vraiment très, très riche de savoir et
de conseils. Ouais, c'est ça. Ça me fait un peu penser à quand tu dis peut-être qu'il ne faut pas aller solliciter des gens trop proches et trop concurrents. Si par exemple je suis à la recherche d'un fournisseur, je ne sais pas, par exemple pour le packaging de mon produit, effectivement je vais éviter d'aller solliciter les personnes qui font la même activité que moi parce que c'est quand même pas très, c'est un peu déloyal et c'est. Ça prend quand même beaucoup de temps de chercher des fournisseurs, hein, quel que soit le sujet. Là, je parle de packaging, mais c'est la même chose pour tout. Alors que si, par exemple, je prends des informations auprès de quelqu'un d'autre, ça l'embêtera sans doute moins de m'aider, de me donner finalement un petit coup de pouce en me disant ah oui, effectivement, ce packaging, moi je le prends sur tel site ou sur tel prestataire, et parce qu'en fait, c'est toujours des heures de travail pour lui, mais ça lui coûtera moins.
Ça, je suis entièrement d'accord. Et ça, tu peux le faire souvent quand tu vas sortir de ton périmètre d'action, donc les CCI, les réseaux d'entrepreneurs dans les villes, comme ça, les dîners, les déjeuners, peu importe. C'est très utile, je trouve, pour construire son réseau.
Impec, ça marche. Comment je peux mettre en avant mon travail? Ça, c'est une grande question.
Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a énormément d'outils pour mettre en avant notre travail. On a des outils à disposition qui sont gratuits, qui ne demande que du temps de création de contenu. Mais par exemple, les réseaux sociaux, clairement, ouvrir un compte Instagram, ouvrir un compte Pinterest, ouvrir une page Facebook, ça ne coûte rien. Donc déjà, ça, c'est quand même une vitrine qui, aujourd'hui, pour moi, reste indispensable. Faire des belles photos, c'est un peu le nerf de la guerre parce qu'on est quand même dans une société très esthétique, etc. Donc, voilà, ne pas hésiter à se former. Effectivement, souvent, c'est pas notre métier de base et on n'a pas une formation de photographe. On a eu d'autres vies avant, on a eu d'autres formations et la photo, on est un peu catapulté là. Mais il existe énormément, je trouve, de formations pour déjà nous donner les bases de la photo, du stylisme. Donc, mettre en avant son travail, forcément, ça passe par les photos et la vidéo. Ça, c'est le gros plus, mais sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fonctionne pas mal. Si on a la possibilité d'avoir un blog ou un portfolio ou un site internet, c'est aussi un bon moyen d'être trouvé. Quand on a un bon référencement, on peut exposer son travail de la bonne manière. avoir des cartes de visite. Ça, on en avait parlé dans l'épisode, il me semble. Pour moi, c'est hyper important de pouvoir donner des cartes de visite parce qu'aujourd'hui, on est inondé d'informations et la personne, elle est
digitale
ouais. Et elle veut pouvoir facilement se dire « Mais oui, c'est vrai, cette fille que j'ai rencontrée, ah, mais elle m'a laissé sa carte. » Et enfin, moi, j'ai une petite boîte avec énormément de cartes de visite. Et c'est vrai que des fois, je replonge dans ma boîte parce que j'ai un souvenir de quelqu'un qui m'avait laissé sa carte.
En fait, on a tellement l'habitude de ne pas, que tout soit digitalisé que finalement, une carte de visite, un flyer, etc., tu vas avoir tendance à le conserver. Je ne sais pas toi, mais quand tu commandes en ligne et que tu as un petit quelque chose, tu vois, une image sympa, imprimée, etc., de ton, par exemple, d'un créateur dans le cas du fait main, bah, tu vas avoir tendance à le garder. Parce que c'est embêtant aussi de jeter un bel objet qui a été imprimé avec soin, etc. Et donc, voilà, c'est le genre de choses où finalement, tu vas le conserver. Et ça me fait penser aussi un petit peu au courrier papier. Dans les entreprises, on reçoit de moins en moins de courrier papier. Mais tu peux être sûr que le courrier papier qui arrive, il va être lu.
Bah c'est là je te rejoins complètement parce que nos cartes de vœux, nous on les fait vraiment papier et on les envoie. Cette année on a glissé une petite tisane à l'intérieur et on sait que nos clients voilà vont la garder. On a imprimé ça sur du joli papier photo, c'était fait maison, c'était pas du tout fait par un imprimeur, mais sur du joli papier photo glacé, et on sait que ça, les clients qui l'ont reçu, en tout cas, eh ben, ils sont toujours contents. Et donc, effectivement, le papier, ça se perd un peu. On est inondé d'emails. Moi, la dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Tiens, tu peux scanner mon QR code et puis tu vas avoir ma carte de visite digitale. » Mais moi, dans mon téléphone, j'ai tellement de photos, tellement de vidéos, de contenu que je crée que c'est pas du tout le bon moyen pour que je rappelle la personne. Et donc, moi, j'aime bien cette technique de… La petite boîte dans laquelle je glisse toutes les cartes de visite qu'on me donne. Vraiment, je ne me sépare jamais de carte de visite. Donc, elle est de plus en plus grosse. Mais au moins, je peux aller replonger même des années plus tard vers un contact que j'avais eu auparavant.
Je suis hyper d'accord
avec
toi.
Et la dernière chose que je voulais dire pour mettre en avant son travail, c'est quand même qu'on est le meilleur ambassadeur. On a créé son entreprise, on a créé des produits, on a créé tout un univers. Donc, c'est pas présomptueux de parler de soi. On peut en parler de manière très passionnée. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter finalement à parler de son projet, peu importe où. Et quand on en parle avec passion, c'est toujours très, très bien accueilli.
Oui, c'est clair. Je vais donner une petite anecdote, si tu me permets. À la bibliothèque de ma ville, j'ai emprunté un bouquin sur les podcasts. Et donc, bon, de base, je suis déjà un peu pipelette, hein, forcément, vous connaissez avec le temps. Et du coup, j'ai mis un petit peu de temps pour le lire, etc. Et puis, du coup, j'en profite pour glisser. Je connais déjà un peu le podcast parce que j'en ai un. Et la bibliothécaire me dit « Ah oui, c'est sur quoi ?»« Ben, les loisirs créatifs. »« Ah oui, c'est pas vrai, moi, j'adore ça. » Et au final, elle écoutait fait main. Et donc, c'était juste incroyable, improbable, tout ce que tu veux. Et donc, voilà, et on s'est recroisés. Elle m'a dit, je dis bonjour à Chloé si elle m'écoute. Et on s'est recroisés samedi et elle me dit, c'est super, continuez et tout. Enfin, le truc, tu vois, tu peux pas plus improbable. Mais en fait, si j'avais pas… alors, moi, je suis un peu comme ça aussi. Hein, j'ai ce côté de pipette, mais… Sinon, j'aurais jamais su en fait qu'elle écoutait, etc. Enfin bon, bref, parler de soi, effectivement, ça, il peut y avoir un côté, oui, comme tu dis, se mettre un peu en avant, etc. Mais c'est aussi finalement engager la conversation. Et puis, ça se trouve, il se passe à rien. Et puis voilà, ça s'arrête là, mais c'est pas grave.
Et c'est aussi le moyen de trouver des synergies. J'en sais rien, cette fameuse Chloé à qui on dit bonjour si elle nous écoute va peut-être, je sais pas, être hyper. Oui, il va peut-être un jour te proposer un projet auquel tu n'aurais jamais pensé. Et voilà, tu fais du local. Enfin, le local, pour moi aussi, c'est hyper important. Je suis très investie dans ma ville. Et je pense que, voilà, déjà en parlant à son entourage, on a toujours quelqu'un qui nous recommande à une autre personne qui va nous recommander, qui nous écoute. C'est aussi, on est son meilleur ambassadeur.
Impeccable.
Me revoici. J'espère que ces conseils vous ont plu. Ce sont à la fois des conseils pleins de bon sens, mais surtout des conseils issus de l'expérience. Personnellement, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Pour retrouver Laure, je vous donne rendez-vous sur son blog ilovedoityourself.com et sur le site de son agence Bureau d'Influence. Pour suivre le podcast au quotidien, vous vous en doutez, je vous donne rendez-vous sur Instagram, tout simplement sur le compte Podcast Fait Main. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir les autres conversations enregistrées depuis quasiment 2 ans et demi. Il y a plus de 90 audios à écouter. Et si le travail que je fais autour du podcast trouve écho en vous, je vous invite chaleureusement à me soutenir sur Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme de financement pour les créateurs qui, comme moi, vous propose du contenu gratuitement. Il y a plusieurs niveaux de soutien avec des contreparties différentes à partir de 2 euros. Vous pouvez aller sur tipeee.fr et chercher Podcast Fait Main. Allez, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, prenez toujours le temps dans votre quotidien pour créer.